Alors, ma chaire s'appelle anthropologie de la nature. Et c'est une contradiction dans les termes, un oxymore, comme on dit en termes savants, puisque en principe, il n'y a pas d'humain dans la nature. Mais j'ai voulu appeler cette chaire ainsi pour souligner le fait que le concept de nature est une invention de l'Occident et que dans les sociétés qui m'intéressent au premier chef, celles dans lesquelles j'ai travaillé comme ethnographe, la nature n'est pas présente, elle n'existe pas.
Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers.
Sur Radio Piquet.
Qui sont les bêtes et qui sommes-nous? Dès son usage en latin, bestia, d'où le mot bête est dérivé, ce mot s'oppose clairement à homo, l'humain. Une séparation que le mot animal en latin, être animé, ne contient pas. Puisque, à l'époque romaine, comme à présent, l'humain est aussi un animal. La bête, dans la tradition européenne, c'est donc l'animal non humain. Qu'il soit familier et inclus dans l'environnement domestique, les bestiaux, les bêtes de compagnie, ou lointain et parfois propre à inspirer la crainte. Les bêtes sauvages, la bête du Gévaudan, ou même proches, mais non domestiquées, les bêtes ailées ou les bêtes à bon Dieu. Cette opposition lexicale entre la bête et l'homme a pris en Europe, à l'âge classique, un tour plus philosophique. Afin de définir le propre de l'homme, en évitant toute référence, tout recours à la théologie, on a pris le parti de caractériser le propre de l'homme par contraste avec la bête. Du point de vue physique, en effet, ils ont tous deux des corps, et des corps capables de mouvements autonomes. De sorte que ce critère ne paraissait pas très pertinent pour distinguer l'un de l'autre. D'autant qu'il peut y avoir aussi des bêtes humaines, c'est-à-dire des hommes entièrement livrés aux pulsions animales de leur corps, imparfaitement contrôlées. Donc en décrétant que les bêtes n'avaient pas d'esprit, qu'elles étaient bêtes, justement, on tenait en revanche un critère plus solide pour établir un grand partage et fonder une anthropologie, c'est-à-dire une théorie de la nature humaine. Une théorie qui a cours jusqu'à aujourd'hui, même si elle a souffert ces dernières années quelques ébranlements. Donc à notre question initiale, qui sont les bêtes et qui sommes-nous, nous avons une partie de la réponse. Les bêtes, ce sont finalement les faire-valoir des humains et ce qui donne aux humains leur caractère distinctif. Afin que les humains soient définissables comme des corps avec un esprit, il faut que les bêtes soient des corps sans esprit. Mais qui est ce « nous » dans les bêtes et nous ? Les humains, bien sûr. Mais quels humains, au juste ? On voit assez que ce sont ceux qui qualifient les bêtes de bêtes, pour mieux asseoir leur humanité. Autrement dit, les Européens, depuis quelques siècles, et aussi ceux qu'ils ont influés, sur lesquels ils ont influé, ailleurs dans le monde. Bref, nous, dans les bêtes et nous, c'est les Occidentaux, pendant un peu plus de 4 siècles de leur histoire. Autrement dit, sous ce titre d'une trompeuse simplicité, les bêtes et nous, se cache une double exclusion. D'une part, exclusion des animaux non humains, qui deviennent radicalement séparés des humains. D'autre part, exclusion de certains humains qui n'ont pas jugé bon eux-mêmes de procéder à cette exclusion des animaux et qui, de ce fait, se voient exclus du « nous » inclusif censé représenter l'humanité tout entière. Ça fait beaucoup d'exclusion pour un simple titre.
Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison ?
Il n'y a pas donc d'animal en soi. Il n'y a que des animaux d'une foisonnante diversité, avec lesquels des humains, eux-mêmes très divers, ont noué au fil du temps des liens fortement contrastés en fonction de ce qu'ils voyaient dans ces animaux. Au demeurant, les études sur les classifications populaires qui sont menées par les spécialistes d'ethnozoologie montrent que la plupart des cultures non européennes ne possèdent pas d'équivalent du mot « animal » ou « bête » comme un terme englobant, un vaste ensemble de formes de vie. C'est quelque chose qui est restreint aux langues européennes. Et sans doute les similitudes entre certaines espèces animales sont-elles partout perçues, mais la nécessité ne s'est pas partout fait sentir d'un terme qui synthétiserait certaines de ces ressemblances à l'échelle d'un règne qui est évidemment immense puisqu'il va de la bactérie à la baleine. Chacune de ces façons de détecter des ressemblances et des différences entre les humains et les non-humains a évidemment pour conséquence des conceptions très différentes de ce qu'est une bête et des rapports que l'on peut entretenir avec les bêtes. Aussi, mon propos d'anthropologue va surtout consister à montrer qu'il y a d'autres façons de détecter des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains que celle la plus commune qui nous est proposée, à savoir opposer les bêtes et nous. On peut noter du reste que cette exclusion est bien improbable, car partout dans le monde, les communautés humaines forment avec des communautés animales, des collectifs hybrides, dont les caractéristiques sont très variables selon la nature des espaces fréquentés et selon le type de contrôle exercé sur ces espèces. C'est évidemment notable dans le cas des civilisations de pasteurs nomades où le bétail est une composante absolument intrinsèque de la société, mais c'est aussi évident ailleurs, quels que soient les types de rapports que l'on entretienne avec les animaux, que les animaux soient chassés et apprivoisés, qu'ils soient apprivoisés sans être chassés, qu'ils soient chassés sans être apprivoisés, qu'ils soient élevés sans être chassés, qu'ils soient chassés et élevés, qu'ils soient ni chassés ni élevés, qu'ils soient utilisés pour leur viande, qui soient utilisés pour leurs produits secondaires, la peau, le lait, etc., pour l'énergie qu'ils fournissent, qu'ils soient utilisés comme substitut des humains dans les échanges ou dans les sacrifices, qu'ils soient utilisés comme source de symboles, comme modèle de classification, pour n'importe quelle autre fonction. Chacune de ces formules caractérise un mode particulier de cohabitation et d'interaction entre des humains et des espèces animales, à chaque fois spécifiques, qui rend évidemment illusoire toute définition universelle de ce que seraient les bêtes.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel, y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre.
Alors, il est évidemment impossible de passer en revue, de façon exhaustive ou même partielle, la multitude des rapports de continuité et de discontinuité que les humains établissent avec des bêtes selon les cultures où ils ont été élevés. Mais l'on peut en donner une idée générale en examinant les diverses manières selon lesquelles les humains figurent les animaux. Et donc, les différentes manières selon lesquelles ils perçoivent leurs qualités et les traits saillants pour mettre ces qualités et ces traits saillants en image. Or, ces façons de percevoir les contrastes et les différences ne sont pas infinies. À vrai dire, les formules sont même relativement limitées. Soit les humains se disent seuls à posséder un esprit, une intériorité, une âme, tout en convenant qu'ils se rattachent au continuum des non-humains par leurs caractéristiques physiques. Et c'est la conception qui s'est imposée en Europe à partir de l'âge classique. On a cité tout à l'heure Descartes. Descartes en est l'un des avocats, bien sûr, il est loin d'être le seul. Et on peut appeler cette conception le naturalisme. C'est aussi la seule dans laquelle la distinction entre les bêtes et nous est pertinente. Ou bien on peut admettre la formule inverse du naturalisme. Et c'est le cas parmi les populations autochtones d'Amazonie, du nord de l'Amérique du Nord, de Sibérie, de certaines parties d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, en disant que la plupart des existants ont une intériorité semblable, une âme, un esprit, une subjectivité, une intériorité, quel que soit le terme que vous choisissiez pour désigner cela. Donc, elles se distinguent donc pas du tout par leur esprit, par leur âme, mais elles se distinguent par leur corps. Donc les bêtes ne sont plus bêtes, puisqu'elles ont une âme, mais leur corps, chacun avec ses outils biologiques particuliers, va donner à chaque espèce accès à des mondes qui sont tous différenciés. Le monde d'un papillon n'est pas le monde d'un toucan, qui n'est pas le monde d'un poisson, qui n'est pas le monde d'une bactérie, etc., etc. Et on peut appeler ça, c'est un terme que j'ai employé en le relevant d'un discrédit où il était tombé, l'animisme. Alors il reste encore deux autres formules. Dans une de ces formules, certains humains et non-humains partagent, à l'intérieur d'une classe nommée, les mêmes propriétés physiques et morales qui sont issues d'un prototype, tout en se distinguant en bloc d'autres classes du même type. Et ça, c'est le totémisme tel qu'on le rencontre chez les aborigènes australiens. Et enfin, dans la quatrième formule, tous les éléments du monde, les objets, les corps, les qualités, les états, apparaissent comme différents les uns des autres, raison pour laquelle il convient de trouver des moyens d'organiser cette foule déconcertante de singularités, de les apparier, de définir entre elles des liaisons stables. Et comme c'est la pensée analogique qui permet ce travail de mise en correspondance, eh bien, on peut appeler ça l'analogisme. C'est une façon de percevoir le monde qui est très commune et qui fut dominante en Europe, d'ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, et qui caractérise des civilisations aussi diverses que celles de l'Extrême-Orient, de l'Afrique de l'Ouest, ou des Andes et du Mexique.
Tout le monde veut devenir un gâte, parce que chaque quand il est gâte, retombe sur ses pattes.
C'est vrai,
tout le monde est piqué, ne se passe si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.
C'est comme les bottines à boutons.
Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou.
Ça suit comme un pied.
Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis.
Quelle calamité.
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter.
Ben c'est un gâte, le seul qui sache sa chaîne à swinguer.
Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes.
Quand tout le monde veut devenir un gâte. Il cloche quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça swing comme un pied.
Oh, rinky tinky tinky.
Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité.
Oh, rinky tinky tinky.
Oui, tout le monde veut devenir un gâte. Parce qu'un chat, quand il est gâte, retombe sur ses pattes. À jouer du chanson devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des quatre.
En haut, camarade, allez-y, de l'ambiance.
Oh, oh, remuez-vous, les gars. Oh, 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 oh.
On s'en fait une petite tous les deux, Duchesse ?
Oui, swingo ensemble, Thomas.
C'est du tonnerre, maman, du tonnerre.
Essaye, mon miné. Souffle un coup.
Bon sang, qu'elle souffle.
Et ce n'est qu'un des boutons.
Il n'y a qu'à jouer en d'autres clés, modulées, oh oui ça me plaît, car j'adore faire certaines petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée. La grande nuit va commencer.
Nous les laisserons allons s'aimer.
Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde,
Alors passons maintenant au naturalisme, c'est-à-dire à notre formule, à celle que nous apprenons à l'école, à celle qui nous imbibe, qui nous imbibe dès l'enfance, et qui est l'inverse de la formule de l'animisme. Ce n'est pas par leur corps, mais par leurs esprits, par leur esprit plutôt, ou leurs esprits lorsqu'ils forment un collectif, que les humains se différencient des non-humains, comme c'est aussi par leur esprit que les humains se différencient entre eux par paquets, grâce à la diversité des relations que leur intériorité collective autorise en s'exprimant dans des langues et dans des cultures distinctes. Ça, c'est ce que nous avons tous appris, c'est ce qui est en vigueur en Europe et un peu plus loin même depuis quelques siècles. Quant au corps, ceux des humains comme ceux des bêtes, eh bien, ils sont tous soumis au même décret de la nature et ils ne permettent pas de singulariser par des genres de vie, comme c'était le cas dans l'animisme. Et cette révolution dans l'art de peindre qui se produit alors installe durablement en Europe une manière de figurer qui se traduit par une virtuosité sans cesse croissante dans deux genres inédits, la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité des humains comme indice de la singularité de ces personnes d'un genre particulier, et l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même. Et évidemment, dans la description de ce monde physique, les animaux jouent un rôle prépondérant. Par contraste, avec le Moyen-Âge, où les animaux figurent pour l'essentiel comme des symboles, soit dans les images sacrées, soit dans l'héraldique, et où l'exactitude de leur figuration est moins importante que leur situation dans la scène sacrée et que les attributs distinctifs pour lesquels on les retient. Dans la figuration naturaliste, en revanche, c'est la précision dans la description de l'apparence des animaux et dans leur comportement qui domine, et ceci, en fait, très tôt, c'est-à-dire, au fond, bien avant que le... On a parlé tout à l'heure de Descartes, on peut dire que le naturalisme commence au XVIIe siècle, mais dans les images, il commence beaucoup plus tôt, et au fond, dès le XIVe siècle, on voit dans ces petites enluminures qui agrémentent les marges des manuscrits, que l'on appelle des drôleries, des images d'animaux dépeints avec une extraordinaire précision. Mais les bêtes étant des corps sans esprit, dans le naturalisme évidemment, c'est leur corps que l'on dépeint. Et c'est un désir d'objectivité qui construit en fait des types idéaux. Et d'une manière générale, comparer la figuration animique et la figuration naturaliste permet de mieux souligner leur contraste. Dans les deux ontologies, l'ontologie c'est un système de qualité des objets du monde, eh bien il s'agit de donner à voir une intériorité. Mais avec des moyens fort différents, puisque le champ des entités auxquelles on va prêter une intériorité agissante, si on peut dire, n'a pas la même extension. Dans l'animisme, l'animisme ne se préoccupe guère de figurer l'intériorité des humains. Elle va de soi, comme archétype de toute intériorité. Et l'animisme s'attache plutôt à rendre visible l'intériorité des non-humains, comme on l'a vu avec les masques Yupik, sous la forme d'attributs humains reconnaissables. Tandis que le naturalisme réserve l'intériorité aux seuls humains et va donc figurer cette intériorité en tant que propriété générale d'une espèce, les humains, et indice de la singularité de chaque personne par le biais de la particularisation des physionomies, notamment du regard, qui est l'expression de la virtuosité dans l'art du portrait. Et le traitement de la physicalité est plus dissemblable encore. L'animisme rend visible les attributs physiques au moyen desquels chaque espèce d'existant se distingue des autres, mais sans qu'il y ait uniformité des codes, souci de ressemblance mimétique, ni juxtaposition des figurations au sens d'une imitation de la nature. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'animisme, chaque classe d'existant, chaque espèce animale, si vous voulez, possède un point de vue légitime sur le monde. Et donc il n'existe aucune position privilégiée à partir de laquelle une uniformisation, une totalisation de la représentation pourrait être mise en œuvre. Et c'est pourquoi il n'y a pas de représentation paysagère, il n'y a pas de figuration paysagère dans l'animisme. Parce qu'il ne peut pas y avoir un point de vue impérial, si vous voulez. Et c'est évidemment exactement le contraire qui se passe dans le naturalisme.
Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents sur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours dans un cercle, une ronde à l'infini. Là-haut, le sycamore dort comme l'aigle royal, il trône à peindre l'air du vent. Mais la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore comment il peut faire en mille couleurs l'air du
Passons maintenant à une troisième formule que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est le totémisme australien. Donc le totémisme, c'est quoi ? Ben, c'est, au fond, c'est fondé sur l'idée au sein d'une caste se regroupent des humains de diverses sortes et des non-humains qui partagent un ensemble de qualités physiques et morales qui est censé être incarné par une entité qu'on appelle éponyme. Et dans les sociétés d'aborigènes, d'Australie, où cette ontologie est la mieux attestée, le noyau de qualité qui caractérise la classe totémique est réputé issu d'un prototype, un prototype primordial, qu'on appelle dans la littérature ethnographique sur l'Australie un être du rêve, et qui porte très souvent le nom d'un animal. Or, c'est en dépeignant cet animal, mais d'une façon très particulière, que les aborigènes s'efforcent de rendre visible l'identité profonde des humains et des non-humains de la classe totémique. Une identité interne, du fait que humains et non-humains incorporent une même essence, si vous voulez, dont la source est localisée dans un site très précis et dont le nom synthétise les attributs que humains et non-humains possèdent en commun, mais aussi une identité physique, car ils sont constitués, humains et non-humains, des mêmes substances, ils sont organisés selon une même structure et ils possèdent en conséquence le même genre de tempérament et de disposition au sein d'une même classe totémique. Dernière formule, c'est ce que j'ai appelé l'analogisme, et qui repose sur l'idée que le monde est peuplé d'éléments dont aucun n'est semblable aux autres. Un monde donc qui serait difficile à habiter, difficile à penser, en raison du foisonnement des différences qu'il compose, si l'on ne s'efforçait de trouver entre les existants, comme entre les parties dont ils sont faits, des réseaux de correspondance qui permettent un cheminement interprétatif. C'est pourquoi l'objectif figuratif de l'analogisme, c'est au premier chef de rendre présents des liens d'analogie entre des éléments discontinus, ce qui suppose de multiplier les composantes des images afin de mieux désindividualiser leur sujet. Et en ce sens, et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails à laquelle la figuration analogiste peut parvenir, elle ne vise pas vraiment à imiter avec vraisemblance un prototype naturel objectivement donné, qu'à plutôt restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype va prendre un sens et acquérir une capacité d'agir d'un certain type. Et donc, on comprend aisément que la figure classique de l'ontologie analogiste, celle au fond qui permet avec la meilleure probabilité d'identifier une image comme relevant de ce registre, c'est la chimère ou l'animal imaginaire. Un être composé d'attributs appartenant à des espèces différentes, mais présentant une certaine cohérence sur le plan anatomique. Alors la chimère, c'est un être hybride dont les éléments constitutifs sont empruntés à des sources hétérogènes, des espèces animales qui relèvent de classes ou d'ordres différents, voire à l'espèce humaine, mais qui sont réunis dans un être sui generis, lequel est rarement conçu d'emblée comme imaginaire, parfois envisagé comme un animal singulier ou comme une divinité, plus souvent perçu comme membre d'une espèce peu commune, quoique bien réelle. Donc, je vous en donner ici deux exemples qui viennent de régions du monde très différentes. Le serpent à plumes, donc mexicain, qui est un serpent emplumé mais avec une tête humaine. Et puis les sauterelles du fléau de l'Apocalypse qui sont représentées avec un corps de cheval ailé, à tête de femme couronnée et avec une queue de scorpion. Et pour que ces agrégats de qualité dans un animal imaginaire soient plausibles, il faut que chacune de ces qualités soit identifiable dans un élément anatomique. Ainsi, dans l'héraldique européenne, par exemple, le griffon va combiner un corps de lion, qui est un symbole de vaillance, et une tête d'aigle, qui est un symbole de pouvoir victorieux. Mais il faut aussi et surtout que la combinaison de ces éléments parvienne à donner l'illusion de la vie sous la forme d'un organisme capable d'action autonome. Car la chimère, l'animal imaginaire, possède toujours une unité de composition et un schéma corporel vraisemblable, en dépit du caractère disparate des pièces dont elle est faite.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. à un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau. Avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
Dans la répartition en quatre que vous avez proposé, donc pour les trois premières ontologies, on peut voir assez nettement le rapport avec quel type de société, enfin à quel type de société elle se rapporte. En revanche, pour le quatrième dispositif, celui de l'analogie, je perçois mal à quel type de société donc ça se rapporte.
Les anthropologues, les historiens d'ailleurs, utilise un terme pour désigner un certain type de société qu'ils ont du mal à qualifier. Ils parlent d'ensemble socio-cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire, un ensemble socio-cosmique ? C'est-à-dire, ce sont des ensembles dans lesquels, au fond, les limites de la société sont coextensives avec le cosmos. Alors, on en a un très bon exemple, par exemple, avec l'Empire du Milieu, en Chine, dans lequel on le définit comme tout ce qui existe sous le ciel, si mes souvenirs sont bons. Or, les Chinois avaient bien conscience qu'il y avait quand même des barbares à la périphérie, mais ça n'avait pas une grande importance. Ce qui importait, c'était l'ensemble qui regroupait des humains, quelquefois de différents types, segmentés dans des ensembles très différenciés, et des non-humains arrimés à chacun de ces ensembles. Des montagnes, des lacs, des espèces animales, des espèces végétales, des séries ordonnées de sites, des cycles temporels, etc. Donc vous voyez ce genre de dispositif socio-cosmique, ça veut dire, au fond, à l'intérieur de ces ensembles, on ne distingue pas véritablement ce qui est de l'ordre du social et ce qui est de l'ordre de la société et ce qui est de l'ordre du cosmos. Eh bien, ces systèmes-là, ils ont existé un peu, et continuent à exister d'ailleurs, un peu partout dans le monde, aussi bien dans notre antiquité, autour de la Méditerranée. Juste le Moyen-Âge était un dispositif de ce type-là. Ces systèmes tiennent essentiellement du point de vue social par la hiérarchie. Qu'elle soit une hiérarchie effective, c'est-à-dire fondée sur des disparités de pouvoir, de naissance, de statut, de richesse, etc., ou qu'elle soit purement symbolique, c'est-à-dire le fait que les gens sont ordonnés selon une échelle, selon des degrés. Donc on voit ça dans de très nombreuses régions du monde. Les effets, ce n'est pas nécessairement des sociétés étatiques. On a des petites communautés dans les Andes de ce type-là, de quelques milliers de personnes, qui fonctionnent aussi comme des ensembles socio-cosmiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très commun un peu partout dans le monde et qui nous est proche, puisqu'au fond, c'est de là que nous venons. Au fond, le naturalisme est né de ce terreau.
Oh, tous mes amis m'encouragent. Même privé de mes sens, je sens leur cosmo-énergie m'envelopper. Tous ceux qui m'ont aidé à vaincre tous les obstacles qui me barraient la route. Tous ceux qui se sont battus à mes côtés contre le même ennemi. Mes compagnons, mes amis, mes frères. Ils me prêtent tous leur force et leur volonté pour surmonter l'ultime épreuve. Je sens que leur énergie m'ouvre la voie du septième sens. Ô princesse Athéna, prête-moi ta force et laisse-moi voir mon ennemi. Athéna !
Ses yeux ! Comment peut-il encore dégager une telle énergie ?
Les quatre cosmo-énergies de ses compagnons se sont fondues en celles de Seyar.
Par les météores de Pégase !
Ces météores ont changé de forme, on croirait un rayon laser à présent.
Je ne peux pas croire qu'ils puissent projeter autant d'énergie. Il a projeté une boule d'énergie comme une étoile filante.
Donc nous venons de passer en revue des façons très diverses de figurer les animaux et donc de représenter leurs qualités et donc qui nous donnent des indications sur la façon dont les gens se sont imaginés, se sont représentés ces qualités des animaux, façons très diverses qui doivent nous inciter à la prudence et à ne pas généraliser au reste du monde des attitudes, des sensibilités, des comportements à l'égard des bêtes qui résultent en Europe et en Amérique du Nord d'une trajectoire historique particulière que les historiens de la sensibilité vis-à-vis de la nature en général, les animaux en particulier, ont bien retracée et qui offre en outre en Occident même une grande variété selon les espèces concernées, selon le degré de familiarité avec telle ou telle espèce et selon les habitudes du milieu social et les habitudes transmises au sein des traditions locales. Donc à la question de savoir ce que sont les bêtes, il n'existe pas de réponse simple en dehors de celle que fournit au fond la simple capacité d'observation. C'est la classe d'organismes au sein de laquelle je pourrais trouver, ou n'importe, je, au sens de n'importe quel humain, pourrait trouver le support le plus immédiat d'une identification à un autrui non humain, pour peu que certains traits de son apparence et de son comportement me le permettent. Tous les animaux ne le permettent pas, bien sûr, la bactérie en particulier, mais certains le permettent mieux que d'autres. Mais ce que je fais ensuite de cette potentialité d'identification est très largement déterminée par ces choix ontologiques que je viens d'évoquer et que j'ai appris à recevoir pour vrai dans la culture où j'ai grandi. Bref, il y a au moins autant de genres de rapports entre les bêtes et nous qu'il y a de genres de traitement des humains. Et sans considérer que ces derniers, les traitements des humains, soient tous tolérables, il n'est, je crois, pas judicieux de faire des rapports très particuliers à quelques espèces animales qui ont cours depuis un demi-siècle parmi les élites urbaines des pays du Nord, les seules normes légitimes pour régir les relations entre l'ensemble des hommes et l'ensemble des bêtes.
Thank you.
ce village qui soutient l'élevage, où les mœurs se tiennent immobiles, où les gens dès le matin accablent les végétaliens.
Boulgour !
Boulgour !
Boulgour !
Boulgour !
Boulgour !
Ces boulets trouvent toujours des insultes gratuites, de bons vieux surnoms bien pourris. Depuis que je suis antispé, ces gens-là m'ont rejeté. Je sais que je les ennuie.
Oh, bouffe des graines!
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que tu veux?
Allez chez mon ami le libraire. Il faut que vous consultiez ce merveilleux essai à propos des droits des animaux.
Très intéressant, mais oui, des sornettes, rien à foutre!
Des parieurs et ton petit air prétentieux, des certains grosses pas naturels.
Elle veut ouvrir toute la cage.
Elle parle d'abolir l'élevage.
C'est vrai qu'elle est étrange, mademoiselle Graine.
Bonjour.
Bonjour.
J'aime pas les lentilles.
Bonjour.
Bonjour.
Agressez les pommes. Il faut 6 œufs.
Tu as des poulets.
Je veux que chacun dispose sa vie.
Ah, Graine.
Bonjour. Je rapporte le livre sur les animaux exploités.
Comment ça, déjà?
Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre?
Hey, depuis hier, non, hélas.
Ça ne fait rien. Je prendrai... celui-là.
Celui-là? Mais tu l'as déjà lu 2 fois.
C'est mon préféré. J'aime les romans anticap, antispé, la stratégie et la défense des opprimés.
Eh bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau.
Mais monsieur...
J'insiste.
Oh, merci. Merci infiniment.
La tête ailleurs avec sa révolution, on ne supporte plus sa rengaine.
Elle a toujours des jugements,
dès qu'on parle d'être sentient, bizarre que d'être aussi obsessionnel.
C'est bien beau tous ces slogans, mais toutes ces cages, on en fait quoi? Pour en faire n'importe quoi.
Il faut bien dire qu'ils sont extrêmes, ces végans viennent saboter dès le réveil.
Mais sous leur bonne conscience, ils ont quand même des carences. Alors que les animaux ne sont personne. Non, les animaux ne sont personne. Les animaux ne sont personne, chère Graine.
Waouh, tu n'auras jamais ta cible, Gaston. T'es le plus grand chasseur du monde.
Le meilleur.
Aucune bête n'a la moindre chance de gagner contre toi. Aucun vegan non plus, d'ailleurs.
Aucun, le fou. Et je vais jeter des épluchures sur cette prétentieuse végan.
La fille qui mange pas de beurre.
Exactement. C'est Lulu Berlu que je vais harceler.
Mais...
l'antispéciste de
sans
la ville.
Doute, mais...
la seule qui soit une rebelle avec ses conférences 46 fois par mois.
Oui, bien sûr, mais comment est-ce que tu...
À l'instant même où je l'ai vue, ben j'ai su que j'allais devoir m'occuper d'elle. Elle est la seule ici-bas que je méprise plus que toi. Je compte détruire ses rêves superficiels.
Graine est trop bien, elle est à frémir. Et ce Gaston est un gros con. Mes graines m'emballe, me fait défaillir. Et qu'elle pour nous donner le bon frisson.
Lardon, salade,
manger du poisson,
du lard,
des bonbons,
des lions aussi,
produits laitiers,
des plantes, carottes,
chaîne alimentaire.
Je n'en peux plus d'entendre ces sophismes.
À la poubelle ces arguments pourris.
La tête perdue dans son dogme alimentaire. Régime
autoritaire. Ce valeur sont bizarres. On espère son départ. Les animaux ne sont pas des personnes. Non, ils ne sont pas des personnes. Les animaux ne sont personnes. Ce que je veux dire, c'est que ces ontologies, c'est simplement des capacités que chacun d'entre nous a de détecter dans les objets du monde, certaines qualités. Mais du fait de notre éducation, du fait de la culture au sein de laquelle nous avons été élevés, nous aurons tendance à inhiber certaines de ces capacités d'inférence et en favoriser d'autres. Donc lorsqu'on est élevé dans un système naturaliste, on va avoir tendance à éliminer des inférences animiques, c'est-à-dire on peut les maintenir de façon modérée, en parlant à son chat, à son chien, à ses rosiers, à ses cactus, etc., mais sans les conséquences plus larges que cela implique dans l'animisme. Même chose pour le totémisme, quand on pense que, au fond, les lieux, les êtres, humains et non humains, d'un certain site sont très particuliers, ont des caractéristiques tout à fait singulières qui les rendent complètement différentes de celles des autres. C'est une forme d'identification régionaliste, nationaliste, enfin, quel que soit le terme que vous pouvez souhaiter employer, qui est aussi commune, mais qui n'est pas poussée jusqu'à ses limites institutionnelles, si je puis dire.
Un chien et un chat.
Un chien et un chat ?
Un chien et un chat.
Deux chats ?
Non, un chien et un chat.
Ah, d'accord.
Comment je m'en occupe ? Oui. Tous les matins. Il ne voit pas très clair, alors je lui fais ses yeux. Elle a des gouttes à mettre dans ses yeux tous les deux fois par jour. Et puis, elle va aller au toilettage aussi. Hein.
Comment vous en occupez-vous ?
Ben, je m'en occupe le mieux possible. Mais tu sais, je le gâte un peu comme si c'était un enfant. Voilà, si bien qu'il devient quelquefois insupportable. Parce que je suis toute seule et que ça fait une présence, tu comprends, au lieu d'être seule. Quand je m'ennuie, je parle à mon chien.
Un petit chien.
Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au whisky-ti. Le taureau n'est pas content, sa femme est vache en avant. Le hibou chante à tue-tête, je suis heureux, ma femme est chouette. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au whisky-ti.
Donc chacun d'entre nous est capable d'être un petit peu animiste, un petit peu totémiste, etc. Donc, effectivement, le modèle naturaliste, essentiellement parce que l'étanchéité est en train de prendre l'eau, et parce que l'étanchéité entre phénomènes naturels et phénomènes sociaux, culturels, elle nous apparaît de plus en plus à l'évidence poreuse. Enfin, si on peut parler d'une étanchéité poreuse. Enfin, en tout cas, la frontière est à l'évidence de plus en plus poreuse. Et en particulier du fait du développement des sciences et des techniques. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous nous dirigeons probablement vers des accommodements. Quels vont être ces accommodements ? Je ne sais pas. Peut-être des accommodements, une forme d'analogisme d'un nouveau type, c'est-à-dire dans lequel la connectivité entre les éléments du monde va prendre une forme beaucoup plus ample et beaucoup plus systématique qu'elle n'existait dans les systèmes analogistes classiques, parce que du fait de la mondialisation au sens de l'échange des idées, des marchandises, de la circulation des personnes, etc., l'idée socio-cosmique, si vous voulez, commence à avoir une forme de réalisation, un début de réalisation à l'échelle planétaire. Donc il est possible que ce soit vers cela que nous nous dirigions, ou alors vers des coexistences de micro-modules, si vous voulez, qui vont, à l'intérieur même de sociétés. Hein, on peut très bien envisager que vous aurez des noyaux durs de naturalistes qui vont se maintenir, des noyaux à l'intérieur d'un ensemble qui va devenir plus analogiste, ou bien à l'intérieur de l'analogie. Je pense, encore une fois, pour parler du monde chinois, c'est un monde qui est ontologiquement est assez analogique, mais il y a aussi des naturalistes dans le monde chinois. Et donc des combinaisons de ce type-là. Il ne faut pas voir cela comme des sphères fermées. Hein. Ce sont des façons de voir les choses qui sont plastiques, qui supportent des déformations et qui sont surtout combinées en partie dans chacun d'entre nous, mais aussi à l'intérieur de collectifs qui comportent des humains et des non-humains.
Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers
sur Radio Piquesse.